Vous écoutez, on lit pour vous.
Foreigners Everywhere offre une vitrine aux artistes queer et autochtones. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 25 juillet 2024 dans le magazine Fugue. Lorsque cette exposition massive et extrêmement importante a lieu, aux 2 ans, elle attire plus d'attention que n'importe quel autre événement artistique dans le monde. Pas surprenant quand on s'arrête au fait que plus de 330 artistes y exposent leurs œuvres. La 60e Biennale est organisée par le Brésilien gay Adriano Pedrosa et son thème « Stanieri Ovunque, Foreigners Everywhere » fait une grande place aux artistes LGBTQ+. Pour Adriano Pedrosa, l'expression « Foreigners Everywhere » crée un cadre d'inclusion d'un type qui ne se limite pas à l'appartenance à un groupe national ou ethnique. Ici, « étranger » désigne toute forme d'altérité qui peut créer des frontières et des frictions entre des groupes de personnes. L'artiste queer, qui a évolué au sein de sexualités et de genres différents, étant souvent persécuté ou interdit. L'artiste « outsider », qui se situe en marge du monde de l'art, tout comme l'autodidacte et l'artiste dit « populaire », ainsi que l'artiste autochtone, souvent traité comme un étranger sur son propre territoire. Différent des autres biennales que j'ai vues par le passé, celle-ci propose une réflexion extrêmement fascinante sur l'art contemporain mondial, qui exprime à parts égales les élans de plaisir et d'inquiétude exprimés par les artistes. Il s'agit, entre autres, d'une plongée spectaculaire de l'art queer mondial dont j'ignorais le nom de la plupart des artistes. La sélection de Jeffrey Gibson pour représenter les États-Unis à la 60e Biennale de Venise marque la première présentation solo d'un artiste autochtone et queer au pavillon des États-Unis. Une explosion de couleurs, de motifs et de textes audacieux combinant les histoires américaines, autochtones et queer avec des références aux sous-cultures populaires et aux traditions littéraires et artistiques. Membre de la bande des Indiens Choctaw du Mississippi et d'origine Cherokee, Gibson déploie ses myriades d'influences comme une forme de résistance. Sa pratique déconstruit la manière dont les notions de goût, d'authenticité et les stéréotypes persistants des peuples autochtones sont utilisés pour délégitimer les expressions culturelles qui existent en dehors du courant dominant. Les spectaculaires tableaux de Louis Fratino dans les Giardini m'étaient inconnus, mais dans leur tendre exploration de l'intimité et la vie domestique des hommes homosexuels, il constitue pour moi un moment fort de l'expo. Fratino juxtapose l'image de la famille en contraste avec l'imagerie homoérotique viscérale, afin de compliquer visuellement les tensions entre les deux. Ces toiles sont exposées à côté d'une œuvre du regretté artiste indien Bhupen Kakar, « Fisherman in Goa », 1985, également connu pour son exploration de la vie homosexuelle. La représentation par Kakar de 3 hommes pêchant sur un voilier montre une approche étonnamment similaire de la couleur et des formes à celle de Fratino, bien qu'elle ait été réalisée des décennies plus tôt. Dans l'arsenal, les peintures de Salman Tour capturent les vicissitudes de l'existence queer, avec leur lumière extraordinaire, leur touche évocatrice et leur clin d'œil à l'art du passé. Est-ce Goya? Fragonard, Watteau. Une autre découverte est Kang Sung Lee, l'artiste né à Séoul et basé à Los Angeles qui rend un hommage élégiaque et exquis à des personnalités culturelles décédées des suites de maladies liées au sida. Il échantillonne, par exemple, les lettres façonnées à la main que Martin Wong utilisait dans ses peintures pour son propre texte. Il forge les titres de Liz Lazarus, une vidéo située dans les petits entrepôts voûtés tout au fond du complexe Giardini, qui fusionne un texte de Jordanem Shirt, une vidéo d'un artiste latino, Samuel Rodriguez, et le mouvement du chorégraphe singapourien Go Chu San, que les danseurs interprètent avec une version d'une sculpture formée de deux chemises jointes, très queer, de l'artiste brésilien José Leonilson. C'est à couper le souffle. Les assemblages de lits dans les giardini, sur les mêmes thèmes, réalisés avec du parchemin, du crayon, des broderies d'or, entre autres, sont tout aussi riches. Dans les giardini, les récentes photographies en noir et blanc de Dean Sameshima, des cinémas porno gays de Berlin, côtoient des clichés monochromes secrètement pris par Miguel Ángel Rojas, d'un cinéma de Bogota, qui servait de lieu de drague gay dans les années 1970. L'artiste transsexuelle brésilienne Manauara Clandestina présente quant à elle sa vidéo Migranta, qui raconte l'histoire de migration de sa famille. Adriano Pedrosa a utilisé cette exposition influente pour donner une plateforme sérieuse à des artistes extérieurs au courant dominant, principalement ceux qui documentent les symboles, les traditions et le patrimoine sous-représentés, plutôt que l'intériorité spécifique d'un individu. Foreigners Everywhere est un spectacle de polarité. L'intimité et la tendresse de la communauté, de la famille, de l'amour et du sexe. La violence des histoires coloniales, l'extraction, les politiques migratoires dans les pays riches, l'homophobie et le racisme, et la guerre. C'est la tension vitale au cœur d'une biennale profondément stimulante. Info. La Biennale de Venise 2024, Foreigners Everywhere, se déroule jusqu'au 24 novembre à l'Arsenal, dans les Giardini, ainsi que dans plusieurs lieux partout dans les villes. Site web labiennale.org. C'était « Foreigners Everywhere offre une vitrine aux artistes queer et autochtones ». Un texte d'Yves Lafontaine paru le 25 juillet 2024 dans le magazine Fugue.
Des familles de détenus accusent Bell de s'être enrichie à leurs dépens. Un texte de Radio-Canada avec les informations de la presse canadienne paru le 9 août 2024 sur Ici Toronto. Bell Canada a empoché des revenus bruts de plus de 64 millions de dollars provenant des appels passés par des détenus dans les prisons ontariennes en facturant des frais exorbitants, affirment des avocats dans une demande de recours collectif. Le géant des télécommunications a dévoilé qu'il avait versé 39 millions de dollars à la province, soit 60 % en commission. Bell facturait 1 $ la minute plus des frais de connexion de 2 $50 pour les appels interurbains du système de gestion téléphonique pour les détenus dans les prisons ontariennes qu'il a offert de 2013 à 2021. Ce système ne permettait que de faire des appels à frais virés. Des avocats tentent maintenant d'obtenir des compensations pour les familles qui ont dû payer ces frais. Plus de 80 % des personnes détenues dans les prisons provinciales sont en attente de procès et donc innocentes jusqu'à preuve du contraire. De grosses factures de téléphone. L'un des représentants des demandeurs du recours collectif contre Bell et l'Ontario est le père d'Adam Capé, un Autochtone qui a passé beaucoup de temps en isolement dans des prisons du nord de l'Ontario entre juin 2012 et décembre 2016. Ransom Capé parlait souvent à son fils quand il était en isolement. Selon une déclaration sous serment, ses factures de téléphone atteignaient de 250 à 500 $ parfois même 1 $ à cause de ses appels à frais virés. Il a dû travailler davantage, en coupant du bois, par exemple, pour payer les factures. Bell et la province avaient auparavant refusé de divulguer combien ces appels leur avaient rapporté. Mais le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, a récemment ordonné à Bell de les rendre publics. L'avocat David Stearns trouve que ces sommes sont choquantes. Citation : Ça confirme ce que nous savons depuis le début, que Bell escroquait les familles des détenus. Fin de citation, a-t-il déclaré dans une entrevue. Citation : C'est de l'opportunisme. Ces gens sont captifs, au sens propre comme au figuré, et Bell en a profité et en a fait profiter le gouvernement de l'Ontario. Fin de citation, a-t-il ajouté. Belle se défend. Belle affirme de son côté qu'il a respecté les règles du CRTC et offert les mêmes tarifs facturés dans les autres services pour les appels à frais virés. Les tarifs facturés dans les prisons ontariennes étaient pourtant 4 fois plus élevés que ceux imposés aux détenus des autres provinces, a appris un juge d'un tribunal inférieur. Les faits reprochés n'ont pas été prouvés en cour. L'an dernier, la Cour d'appel de l'Ontario a suspendu temporairement la cause, demandant aux avocats de s'adresser au CRTC pour évaluer si les frais étaient raisonnables. Le CRTC doit déterminer si cette question est de son ressort. Si ce n'est pas le cas, la cause pourra reprendre devant les tribunaux. Un porte-parole du solliciteur général de l'Ontario, Michael Kersner, n'a pas voulu commenter parce que l'affaire est devant le CRTC et la Cour. Une autre compagnie gère maintenant le système téléphonique offert aux détenus des établissements ontariens. Il permet de faire des appels prépayés et facture des frais de quelques cents par minute pour les interurbains. C'était « Des familles de détenus accusent Bell de s'être enrichies à leurs dépens », un texte de Radio-Canada avec les informations de la presse canadienne, paru le 9 août 2024 sur Ici Toronto.
Les 125 ans de la Bibliothèque publique de Westmount. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 25 juillet 2024 dans Le Devoir. La toute première bibliothèque publique municipale du Québec, ouverte en 1899, fête ses 125 ans. C'est la Bibliothèque de Westmount. 6 encore dans l'édifice patrimonial signé Robert Findlay, conservé et agrandi régulièrement de manière exemplaire avec ses boiseries, sa tourelle, ses vitraux inspirés d'Alice au Pays des Merveilles, jouxtant une magnifique petite serre appelée « The Conservatory », cette bibliothèque reste aujourd'hui exceptionnelle, comme si elle conservait, plus d'un siècle plus tard, sa longueur d'avance initiale. Visite. Quand j'ai été embauché, se rappelle tout sourire Anne-Marie Lacombe, on m'a dit « Ici, tu peux rêver un peu ». Celle qui est arrivée en 2021 et est devenue directrice en 2022 sert de guide. Voici le hall, construit en 1924. De larges fenêtres donnent sur le parc à côté. Sur les longues tables de travail, des lampes de banquier avec leurs caractéristiques abat-jour de verre vert. En face, la salle de travail. Ce fut longtemps celle des enfants. Westmount a été la première bibliothèque à avoir une section pour enfants, indique Madame Lacombe. Dès 1911 et mise en œuvre par la bibliothécaire Mary Solis-Sachs, 1868-1942. Les vitraux sont ornés d'illustrations inspirées d'Alice au Pays des Merveilles, comme l'ancien foyer, gravé aussi d'une citation d'Emily Dickinson, « There is no frigate like a book to take us lands away ». On oublie facilement qu'au Québec, le legs des bibliothèques est celui des anglophones. La Westmount Public Library est la première à avoir été entièrement financée par les taxes des citoyens, parmi les pionnières que sont les bibliothèques de Sherbrooke, de Stansted et de Knowlton. Il n'est pas surprenant que la première bibliothèque municipale au Québec ait été fondée dans une ville opulente où la grande majorité des habitants étaient anglophones et protestantes, écrivait François Séguin en 2016 dans « D'obscurantisme et de lumière », paru chez HMH. Pendant que les francophones s'engluaient dans de stériles débats sur les dangers potentiels des bibliothèques publiques, les Westmontais résolurent de se doter de la première véritable bibliothèque municipale au Québec, poursuit-il. La ville en avait les moyens. Et elle se les donne encore aujourd'hui, car la bibliothèque de Westmount est tricotée avec les fils d'un attachement et d'une implication exceptionnelle de la communauté. On le sent, cet attachement, en visitant l'endroit. Il se lit dans le nombre d'abonnés et l'usage dans l'implication des bénévoles et dans l'attention extrême que portent les usagers à leur bibliothèque. Jamais, avant de travailler ici, je n'aurais imaginé un usager léguer 50 000 $ à la bibliothèque à sa mort, illustre la directrice, qui a travaillé auparavant aux bibliothèques de Montréal, de la ville de Mont-Royal, de Saint-Lambert et à la Grande Bibliothèque. Elle précise que si ce cas-là est exceptionnel, il n'est pas non plus unique. Machine à coudre et imprimante 3D. Suivons encore la guide. Les espaces sont larges, lumineux et partagés. On sent une ambiance fort différente de celle des bibliothèques du réseau de la ville de Montréal. Westmount n'en fait pas partie. La notion de bibliothèque tiers-lieu reste plus imprégnée de la tradition. Ici, ça demeure plus silencieux, plus studieux. En bas, la nouvelle salle des enfants, bien garnie, elle compte pour 35% de la collection. Une grande porte patio donne sur le petit jardin. Parfois, les heures du conte prennent là l'air. Sur le côté, le futur laboratoire, qui devrait ouvrir à l'automne. On y trouvera une imprimante 3D, probablement une salle de montage pour tenter d'attirer les adolescents, clientèle toujours fugitive des bibliothèques publiques, avec celle des jeunes adultes. Mais ce labo fera place aussi aux machines à coudre permettant à des technologies de différentes générations et à leurs utilisateurs de se côtoyer. À l'étage, l'essentiel des rayonnages. La collection comporte 190 000 documents physiques et suscite 265 000 emprunts par année. Pour une population approximative de 20 000 habitants, ces nombres sont énormes. Il y a des jours où on accueille 1000 personnes, confie Madame Lacombe. Chaque année, quand on répond aux questions posées pour le portrait national des bibliothèques publiques, il y a toujours quelqu'un qui nous rappelle pour vérifier nos données, parce qu'on est trop au-dessus de la moyenne. Que ce soit pour les heures d'ouverture, 62 heures par semaine l'été, 69 heures le reste de l'année, le nombre d'employés qualifiés, la superficie, ou la popularité. En mai 2024, la bibliothèque comptait 7750 abonnés. C'est 39% de la population. Pré-COVID, en mai 2019, par exemple, nous avions 8259 abonnés, soit 41% des gens de Westmount, rappelle Mme Lacombe, dont l'équipe travaille à atteindre de nouveau ces chiffres. Mais le record absolu date de 1919. À ce moment-là, sous les auspices de Mme Sarles Sachs, 54% de la population était abonnée. Lire en terrasse. À l'image de sa population, 77% de la collection adulte est en anglais. Dans la section des enfants, c'est 68%. Les documents numériques sont exclus de ce compte. Petite histoire, en 1933, quand 31 358 livres constituaient la collection, on en trouvait seulement 250 en français, soit 0,79% du total, et que des manuels scolaires. En novembre 2024, une soirée festive après les heures d'ouverture conclura l'année de célébration. Anne-Marie Lacombe souhaite un succès semblable à celui de la fête de début juin, qui a glané 550 personnes autour de la pièce de théâtre des enfants de la bibliothèque, du concert, des cornets de crème glacée et des sacs de pop-corn. Comme directrice de ce lieu magique qu'espère encore Anne-Marie Lacombe, on la voit réfléchir, chercher. J'ai hâte de voir de quoi le labo aura l'air. D'accord, mais il est quasi fini. Quoi d'autre? Encore un silence. Une terrasse. Une terrasse ici, sur le côté, qui donnerait sur le parc, imagine la directrice, où on pourrait s'installer sans avoir à consommer, dans cet esprit des bibliothèques qui veulent offrir également un accès à la verdure ou à la nature. On pense dans la foulée à celle de Lake Placid, aux États-Unis, qui laisse son accès privilégié au Mirror Lake, ouvert en tout temps, non seulement aux abonnés, mais aussi aux passants. Des idées soutenues par assez de sous qui rendent des lieux collectifs uniques, magiques. C'était « Les 125 ans de la Bibliothèque publique de Westmount », un texte de Catherine Lalonde paru le 25 juillet 2024 dans Le Devoir.
Le village qui a interdit le téléphone intelligent en public, un texte d'Henri Ouellette-Vézina paru le 4 août 2024 dans La Presse. Parce que le téléphone intelligent est devenu omniprésent dans nos vies, un village au sud de Paris vient d'interdire son utilisation dans les lieux publics. La décision, contestée par certains, applaudie par d'autres, a néanmoins été appuyée par plus d'un habitant sur deux. Et elle fait jaser partout en Europe, où la dépendance aux écrans est, comme au Québec, un problème plus criant que jamais. On constate de plus en plus que les enfants, et même les adultes, n'ont pas une attitude normale devant leur écran. C'est omniprésent. Pour moi, c'est grave ce qui se passe, et il faut agir, lance le maire de Seine-Port, Vincent Paul Petit, en entrevue dans ses bureaux de l'Hôtel de Ville. Depuis quelques mois, des autocollants où on peut lire « Commune sans smartphone » ont fait leur apparition un peu partout dans ce village cossu et très charmant où il fait bon vivre, comme le dit sa devise, comptant quelque 2000 habitants. Cela découle d'un référendum tenu le 3 février 2024 sur l'interdiction du téléphone intelligent dans les espaces publics, comme les parcs, les écoles, les rues ou les commerces, voire les rassemblements publics. Environ 54% des habitants ont voté en faveur de la mesure qui s'accompagnait de recommandations sur un sain usage des écrans à la maison, mais ne prévoit toutefois aucune sanction. La loi ne nous permet pas de le faire, et de toute façon, ce qu'on veut surtout, c'est marquer les esprits, faire réfléchir les gens. Et on le voit que ça a un impact, rapporte le maire Vincent Paul Petit. Pour la prochaine rentrée scolaire, il proposera à tous les parents qui le désirent de se procurer gratuitement un téléphone sans Internet, ne permettant donc que d'envoyer des messages textes, d'appeler ou de prendre des photos. On va en donner à tous les ménages qui s'engagent, en contrepartie, à ne pas acheter de téléphone intelligent à leurs jeunes. Et ce qu'on espère, c'est que ça suscite un entrain, que les jeunes aient ça en quantité et arrivent à communiquer entre eux autrement, souffle M. Paul Petit. À deux reprises dans les derniers mois, la docteure Annelise Ducanda, médecin et fondatrice du collectif Surexposition Écran, COC, est venue donner des conférences à Seine-Port sur l'effet néfaste des écrans chez les jeunes. Elle s'inquiète depuis des années des effets nocifs de la surexposition au téléphone sur le développement cognitif des jeunes. Un message à faire passer. Dans le village, la plupart des habitants que nous avons rencontrés salue le rôle d'alerteur que joue ainsi le maire sur la question de la dépendance aux écrans, mais certains s'inquiètent de la manière très stricte dont cette interdiction a été présentée. La démarche en elle-même est très louable. Après, ça reste une liberté individuelle, donc chacun est libre de faire ce dont il a envie, mais c'est plutôt positif. Je vois moins les gens sortir leur téléphone sur les terrasses ou aux abords des écoles. On sent que le message est passé, affirme Muriel Jourde, qui habite Seine-Port depuis déjà plusieurs années. Madame Jourde raconte notamment qu'il y a quelques jours, devant une école, une jeune fille qui était sur son téléphone l'a rangée quand elle a vu le gendarme arriver. Ça démontre que même s'il n'y a pas de sanctions réelles, les jeunes et les moins jeunes ont un certain respect de la décision. Ça fait son chemin dans leur tête aussi, et c'est tant mieux, note Madame Jourde. Devant un restaurant dans lequel elle s'apprête à entrer pour dîner, Edith Duport partage somme toute le même avis. Ça génère beaucoup de discussions. Et c'est tant mieux. Parce que c'est vrai que ça envahit complètement la vie des jeunes. Ils en deviennent dépendants. Et on doit se poser des questions, note-t-elle. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point ça devient addictif. Il faut vraiment être prudent, affirme quant à lui Pascal, un père de famille natif de la région. Ça a été mal présenté au départ, avec une notion d'interdiction qui ne m'a pas plu personnellement, mais sur le fond, on est entièrement d'accord sur l'effet de sensibilisation que ça provoque, ajoute sa conjointe, Nadège, tout sourire. En France, les jeunes âgés de moins de 15 ans ne peuvent avoir de téléphone cellulaire à l'école. En visite au Québec en avril, le premier ministre, Gabriel Attal, avait dit craindre une catastrophe sanitaire et éducative chez les jeunes. Un débat aussi québécois. Au Québec, pendant ce temps, le gouvernement Legault songe à interdire les téléphones cellulaires dans les écoles lors du renouvellement de sa stratégie écran. Le téléphone est déjà interdit en classe depuis janvier dernier, mais pas plus largement. C'est un sujet qui est très important, on le reconnaît. On n'a pas attendu pour agir. On a interdit les cellulaires dans les classes. Est-ce qu'il faut aller plus loin? On y réfléchit. On vous reviendra là-dessus, a dit le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Le maire Vincent Paul Petit l'avoue. C'est une mesure qui, en soi, n'est pas populaire et n'est pas applicable de la même manière partout, surtout dans de grandes villes, où les bassins de population sont beaucoup plus importants. En France, par exemple, on sait qu'on aura besoin d'un coup de main de l'État avec une réglementation beaucoup plus forte si on veut aller plus loin. Mais je pense que ce qu'on peut faire à notre niveau, on doit le faire pour amener les gens à se questionner davantage, avance le maire à ce sujet. Son administration présentera d'ailleurs bientôt un film alertant sur les effets nocifs des écrans dans les écoles en vertu d'une collaboration avec le département de Seine-et-Marne qui compte plus de 1,4 million d'habitants. On veut faire réaliser à tout le monde que l'écran, l'économie de l'attention qui va avec, bref le téléphone mobile, c'est complètement destructeur de liens sociaux, d'humanité, conclut l'élu. C'était « Le village qui a interdit le téléphone intelligent en public », un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 4 août 2024 dans la presse.